qui appelle Abraham son ami. C'est dans les livres d'Ésaïe, j'ai pas mis les textes, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller à Ésaïe, chapitre 41, verset 9. C'est Dieu même qui dit Abraham mon ami, mon pote. Et du texte de la Genèse, chapitre 12, on va voir les 9 premiers versets, on va tirer 3 leçons. On aurait pu tirer d'autres, mais moi je tirerai 3 leçons pour notre vie d'aujourd'hui et ici. Mais avant d'aller au texte d'Abraham, on va situer un peu l'histoire dans le contexte de la Genèse de la Bible. On est d'ailleurs dans les tout premiers livres de la Bible, la Genèse, et jusqu'à présent, jusqu'à notre texte en Genèse 12, je dois avouer que pour moi, Dieu fait un peu peur. Sauf chapitre 1 et 2, c'est les chapitres de la création. Parce que pour 3 fois, écoutez, c'est peu de chapitres, 3 fois, Dieu prononce son jugement. Lors de l'expulsion de l'Éden, Adam et Eva, hop, vous partez. Lors du déluge universel, où il fait table rase, carrément. Et aussi à la tour de Babel, qui est le chapitre juste avant l'arrivée d'Abraham, où il crée la division en l'homme et les humains. Il faut avouer aussi que tous ces chapitres avant d'arriver à l'histoire d'Abraham, l'homme et la femme, aussi, à mon avis, ils font un peu peur. Parce que c'est une histoire de chute après l'autre. On connaît bien la première, Adam et Ève qui désobéissent à Dieu. Après, il y a ses enfants, Caïn qui tue Abel et monte là-dessus. Et la Bible nous dit que l'humanité devient si corrompue que Dieu décide d'en finir, sauf pour un juste Noé. Et on voit un grand déluge universel. Et c'est juste sur les eaux, Noé, à la fois, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saigné avec du vin. Il s'est retrouvé nu devant son fils Cham, et la série sur les gâteaux, les hommes, avant l'arrivée d'Abraham, vont bâtir une ville et une tour pour défier Dieu. Au début de la Genèse, on pourrait dire, pour faire un petit résumé, on ne trouve que désobéissance, assassinat, tromperie, ivrognerie, nudité et rébellion. Et du coup, on arrive au chapitre 12, là où se trouve notre texte d'Abraham, et c'est comme si Dieu donnait une nouvelle opportunité à l'humanité en se choisissant un homme, en se choisissant un peuple. Comme si Dieu faisait ce que j'ai beaucoup, quand on appelle les informaticiens que l'ordinateur ne fonctionne pas, la réponse est qu'il faut faire rester, finir, fermer et réouvrir. Et alors, avec Abraham, on laisse derrière cette histoire générique et chaotique. Et soudain, c'est comme si Dieu fait un zoom sur une famille, puis un étage sur un homme, Abraham et sa femme, Sarah. Parce qu'en fait, l'appel, c'est pour les deux. Et du général, on va passer au concret. Avec Abraham, la volonté de Dieu s'est manifeste clairement en faveur des humains. Et là, je vais lire les textes, je vais les afficher. C'est Genèse 12, versets 1 à 9. Et c'est la notion du semeur. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux que tu creuseront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Et l'homme s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays des Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa les pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au chien de Moré. À cette époque-là, les Cananéens habitaient les pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ces pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva les camps pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape, il gagna les Négev. Et là, je vais prier un moment. Merci, notre Père, pour ta parole. Seigneur, je te demande que, voilà, que tu ouvres ma bouche, pour que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, j'ai rien à dire à toutes ces personnes. Je ne sais pas où ils en sont. Mais tu veux parler, je le sais, personnellement à chacun. Alors, ouvre nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin ce matin. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de la lecture de la Bible, j'avais dit que Dieu s'est choisi un peuple à partir d'Abraham. Mais je l'ai dit plus exactement que Dieu crée un peuple là où il n'y en avait pas. En fait, il y a un grand parallélisme entre Genèse 12 et Genèse 1. Genèse 12, c'est un récit des créations, comme celui de Genèse 1. Par exemple, dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière s'efface, il parle, il crée en parlant, et la lumière fut. Ici, Dieu aussi parle, il dit « va-t'en » et Abraham s'en va. Et qu'est-ce que Dieu est en train d'écrire ici? C'est une création, si vous voulez, plus longue, plus lente, et moins évidente que la première création de l'univers. C'est une création à feu doux. Dieu est en train d'écrire, à travers la paix d'Abraham, son peuple, le peuple d'Israël. De la même manière, on va faire un saut dans le Nouveau Testament, vite fait, pour parler de Jésus, qui, à son tour, demandera aux disciples d'abandonner leur filet de pécheurs et de les suivre. On trouve ça, par exemple, dans l'Évangile de Marc. Et ce qui, ça me semble surprenant, on est habitué à ces récits, c'est qu'ils vont les faire illico. Donc, je dis, si je suis un pécheur, je suis en train de pécher, je dis, écoute, attends, je suis en train de travailler, tu vas voir, j'arrive plus tard. Non, non, illico. En fait, l'appel de Jésus sonne comme un ordre plutôt que comme une invitation. On dirait, et excusez-moi par la comparaison, que c'est comme si les araignées nous disaient, Jésus, c'est Dieu qui parle et qui, en parlant, est en train de créer. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il crée? Il est en train de créer son Église, un disciple à la fois. Mais pour revenir à la Genèse, Dieu crée, je ne sais pas si vous avez repéré, souvent, en séparant. C'est le modus operandi de Dieu en tant que créateur. Par exemple, puisqu'on a parlé des lumières, hein, il dit que la lumière soit, la lumière arrive, et après il dit les textes qui va séparer la lumière de la ténèbre. La lumière, il va l'appeler jour, les ténèbres, il va l'appeler la nuit. Et ici, Dieu va séparer Abraham de sa famille d'origine. Si vous vous rappelez du début des textes, hein, quand tu vas partir des pays, des maisons, voilà. Et pourquoi? On va répondre à la question un peu plus tard. Et on arrive déjà à cette première leçon que je vous propose aujourd'hui de tirer du texte. Et que j'ai marqué comme « Laisse Dieu débouger ». Je dis que l'histoire d'Abraham est tellement connue, comme celle des appels des disciples de Jésus, qu'on prend comme naturel des histoires, des éléments qui sont un peu bizarres. Dieu appelle celui qui sera le père de la foi, le père des croyants, de tout ce qui croit, c'est dans la lettre aux Romains, pour qu'il parte, pour qu'il quitte son pays. Bizarre, non? Parce que pourquoi pas il demande de construire quelque chose, comme Noé qui va faire une arche? Pourquoi il ne demande pas de lui rendre culte, après tout, de faire quelque chose pour lui? Il faut quitter son pays. Abraham, il est à l'origine, pas dans ce texte-là, là il a déjà déménagé un peu, mais il est originaire d'une ville qui s'appelle Ur, dans la Mésopotamie, l'actuel Irak. C'était une ville riche, cosmopolite, pleine de commerçants, d'artisans, de cultures. Génial, non? C'était une ville polythéiste. Selon la tradition juive, le père d'Abraham, qui s'appelait Terah, faisait du business avec ses idoles. Il habite avec plus de 300 divinités. Dieu appelle Abraham à partir pour s'éloigner physiquement de cet entourage, un entourage qui est très riche au point de vue matériel et culturel, mais dégradant au point de vue spirituel. La révélation de Dieu, du seul Dieu, a des besoins de notre cadre. Mais aussi, ce qui est vrai pour nous aujourd'hui, on part dans la situation d'Abraham, si vous voulez, c'est que tout homme et toute femme, pour devenir adulte et adulte spirituellement, doit sortir de la maison du Père, prendre les larges, peut-être pas nécessairement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement, financièrement. la séparation, que peut-être d'emblée nous semble violente, contre nature, contre-intuitive, apporte la vie et rend fertile ce qui va vivre après. La séparation va permettre que chacun prenne la place qui lui correspond. Qu'Abraham devienne adulte, qu'il puisse s'épanouir dans sa vie. Il va partir son carte, son GPS. Je ne sais pas, moi, je ne déplace pas en voiture sur mon Google Maps. Il part en ayant 75 ans. Pourquoi les temps pour Dieu n'ont rien à voir avec nos visions. On dirait peut-être qu'à 75 ans, nous, Dieu fait grand partie de sa vie. Mais dans les cas d'Abraham, sa vie avec Dieu, en tout cas, vient de commencer. Il va falloir qu'il parte, qu'il quitte tout ça la terre pour aller, on ne sait pas où il va aller. Ça, c'est pas gentil, non? Pourquoi il ne lui dit pas? Au début, Dieu ne lui dit pas qu'il va lui donner les pays non plus. Et il ne dit pas quel pays c'est ni comment c'est. Il doit suivre Dieu avec une foi aveugle. Parce que Dieu veut lui apprendre à vivre en dépendance totale de lui. Et nous aussi, on devrait faire pareil. Abraham doit partir parce que Dieu lui demande pour obéir Dieu, pour honorer Dieu. Mais ses départs et tout pour son bénéfice à lui. C'est peut-être une chose qu'on n'arrive pas à voir nécessairement. En fait, les mots « va-t'en » en hébreu, ça se dit « lecha ». Et ça veut dire, en fait, « va vers toi ». Ah, ah oui, merci.
Oui, ah, c'est beaucoup mieux là. Bon.
Je disais qu'en hébreu, pour dire cette expression « va-t'en », ça se dit « lecha ». Qui veut dire littéralement va vers toi ou va pour toi. C'est-à-dire, c'est un voyage physique, mais aussi et surtout, c'est un voyage spirituel qu'Abraham va faire. Dieu appelle Abraham à sortir de lui-même, de son cocon, de la zone de confort, pour aller à sa rencontre. Et ce voyage va pas seulement changer les scénarios extérieurs, mais aussi et surtout la personne d'Abraham. Sa vie spirituelle intérieure. Et ce qui est curieux à Abraham, c'est qu'il est le père de la foi, on a vu, c'est l'ami des dieux, c'est un modèle de foi pour nous tous. Mais en fait, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Non, parce qu'on pense à David, le roi David, on pense à Élie, le prophète, on pense à Moïse qui a traversé la mer là avec son bâton et tout, un pied sec. Abraham n'a rien fait de spécial. On va voir après, il a beaucoup marché, ça, il faut le dire, il a beaucoup, beaucoup marché. Mais la grandeur d'Abraham, c'est qu'il a laissé Dieu faire des grandes choses dans son cœur, une preuve à la fois. Et pour cela, il a compris qu'il faut être en mouvement. C'est même appel, l'Erdéra, va vers toi, va pour toi. On va les retrouver une deuxième fois dans la bouche de Dieu. En fait, ça apparaît deux fois seulement dans la Genèse. Ici, Genèse 12, dans les premiers appels à Abraham, et aussi en Genèse 22. C'est l'histoire du sacrifice d'Isaac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment. Dieu appelle Abraham, il lui dit « Lève-toi ». J'imagine, si j'étais Abraham, 40-50 ans après les premiers appels, j'entends toujours Dieu que me dit ça, je dis « Oh là là, c'est reparti, on va devoir partir, on va devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. » Et dans ce deuxième cas, il ne va pas partir comme ici dans un pays où il va le montrer, c'est Canaan, il va devoir partir dans une montagne où il croit qu'il doit sacrifier Isaac. Comme quoi, le mouvement, l'appel, n'est pas un geste du départ. Mais en fait, c'est une attitude permanente pour la personne de foi et ce qu'il est. Il faut toujours être prêt à bouger spirituellement. La vie chrétienne, on pourrait dire, c'est une série sans arrêt, jusqu'à la fin, de nouveaux commencements. Si vous voulez, de rentrer sans fin. Alors nous, est-ce qu'on est dispo à partir, je pense métaphorique, Nous aussi, si Dieu nous le demande, laisser derrière nous nos habitudes malsaines, nos routines qui nous rendent esclaves, nos idoles qui nous entourent, même si ce n'est pas des petites statues, nos peurs qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Je vais enlever les micros parce que je vois qu'il est en train de tomber. Ça sera plus simple pour ça. Peut-être on s'assoit dans les bancs de l'église depuis un petit moment, depuis qu'on est enfant. Et on a tendance à penser qu'on a fait les tours de la question. Oui, on a lu la Bible, oh, je ne sais pas combien de fois, on a bien des histoires, et on a été au service, à droite, à gauche, dans tellement de domaines. On a fait des études, oui, on sait bien ce que le Seigneur voulait. Vraiment. Regardez comment le Seigneur a chamboulé la vie d'un homme âgé de 75 ans. Je ne sais pas s'il avait très envie de prendre toutes ses affaires et partir. Je pense que Dieu veut toujours nous chambouler. N'importe l'âge, ni la connaissance, ni combien de temps ça fait qu'on est là, dans son église. Est-ce qu'on n'existe pas qu'il fait ce qu'on connaît pour aller dans un territoire sur lequel on n'a jamais marché? Et probablement, en début, Dieu ne va pas nous donner beaucoup d'informations pour parler pour avoir. Est-ce qu'on peut faire ça aussi vite, s'entraîner des pieds? En fait, ça c'est une autre attribut d'Abraham dont on peut apprendre. Dans le verset 4, on a lu « Abraham partit comme l'Éternel les lui avait demandé ». Cette expression en hébreu « comme l'Éternel », ça peut se traduire aussi comme un temporal, et ça serait comme « dès que l'Éternel le lui avait demandé » ou « aussitôt que l'Éternel les lui avait demandé ». Alors, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous demande d'avancer, de bouger, est-ce qu'on est prêt à les faire vite, sans traîner des pieds? Est-ce qu'on est dispo comme Abraham à suivre l'ordre, même si on ne comprend pas où, ni comment, ni quand, ni avec qui, ni avec quel financement? Et surtout, on ne comprend pas pourquoi. On arrive au deuxième leçon que j'ai tiré du texte après. Sois prêt à bouger. Sois béni pour devenir une bénédiction. Nous, quand on connaît l'histoire après Abraham, il y avait ses premiers appels. On sait que Abraham, c'est un homme très béni dans beaucoup de sens, mais ici, surtout, Dieu lui parle de les deux bénédictions qu'il va lui accorder, c'est la descendance et la terre, les pays. Mais au moment de l'appel, Abraham, c'est presque rien. Moi, j'aime bien cette image que j'ai mise parce que c'est vraiment un homme et sa femme et sa famille face au désert. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais faire un peu parler du verset 7. Hein, je vais relire hein, parce que je ne vais pas afficher à nouveau. Parce qu'il n'est pas là. Il dit « L'Éternel a paru à Abraham et lui dit « Je donnerai ces pays à ta descendance ». Donc, et voilà, Abraham, là, tout seul, devant ce qui sera Canaan, et c'est surtout Israël, encore aujourd'hui, un pays basiquement désertique. Cet homme, 75 ans, sans enfants, femme aussi un peu vieille, qui ne peut pas avoir des enfants, et Dieu qui lui dit ça. Il ne voit rien, il ne comprend rien. Mais nous, aujourd'hui, ça c'est la chose incroyable de la Bible, non? Cette promesse a été faite, disons, comme à peu près, on va dire, 4000 ans. Ça fait 4000 ans. Qui allait penser que le peuple d'Israël, quel peuple, quel Israël, une fiction à l'époque, serait une réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, malgré expulsion, pogrom, inquisition et tous les ans que vous voulez mettre. Et encore, bon, fous, ils sont toujours là et ils sont là. Dans les textes, à Sichem, au Negev, en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Abraham? Mais il a tout connu. C'est fou. La logique de la bénédiction que le texte nous apporte aussi, c'est Dieu parle, commandement, après Abraham obéit, et tôt et vite, et ça suit la bénédiction. Mais nous, parfois, en tout cas, moi, parfois, on voudrait inverter l'ordre des choses. On voudrait être béni. Oui, bénis-moi. Et après, on va essayer de compter ce qu'il nous a dit Dieu. Ce n'est pas clair, hein, en fait. Et on va voir si on peut rire. Parce que ce n'est pas nécessairement tout le temps qu'on peut rire. Il faut comprendre. Les bénédictions aussi, parfois, on les comprend un peu de travers, je dirais, de manière individuelle. Pour moi et ma famille. Notre tradition évangélique met beaucoup l'accent sur la relation personnelle avec Jésus. Ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est capital. Mais parfois on oublie les contextes communautaires du salut. On a lu, on a vu, Dieu est en train de se créer un peuple. Un homme, une femme à la fois, mais un peuple. Et Jésus aussi, il vient se racheter, sa fiancée, l'Église, une communauté de croyants. Et on voit bien dans cet exemple que les bénédictions sont collectives et pas nécessairement immédiates. Abraham est hyper béni, devrait aller en plus à Canaan. Et Canaan, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la terre maudite par Noé. Noé, l'homme juste qui est sauvé des eaux, après ça, je crois que je l'ai dit, il s'est libre des morts et encore les drames arrivent parce qu'il y avait ses enfants. Cham voit la nullité de son père et en plus voit en parler avec ses frères. Ah là là là, c'est pas bien. Du coup, Noé, quand il se réveille, il découvre ça, il maudit Cham, qui est le texte de Genèse, Genèse 6, les pères de Canaan. C'est la terre maudite. Pourquoi Abraham les bénit, doit aller dans Canaan, qui est en plus un peu désertique, qui est une terre maudite? Parce que c'est cela, les voyages spirituels des croyants. Il faut emmener la bénédiction là où ils en ont besoin. On n'est pas béni, si vous l'êtes, je crois qu'on l'est, pour rester entre nous. Et là, je vais faire une parenthèse cinéphile, c'est Sylvain et Thibault et tous les autres que peut-être vous aimez, les Seigneurs des Anneaux. Moi, j'aime beaucoup les Seigneurs des Anneaux, les films, la première trilogie. J'ai dit que l'histoire, ça n'aurait jamais été, pardon pour ceux qui ne connaissent pas les Seigneurs des Anneaux, si les hobbits de la Comarque ne seraient jamais sortis de la Comarque. Et quel intérêt de sortir de la Comarque? Parce que c'était tellement bien, non? En tout cas, pour les films, hein. En plus, ça se passe en Nouvelle-Zélande, c'est super beau. Ils sont là en train de s'amuser entre eux. Mais il va falloir voir que les hobbits arrivent jusqu'au cœur des ténèbres, à Mordor, pour changer l'histoire, pour apporter des salut. Abraham, je reviens sur les textes bibliques, ne va jamais connaître sa nombreuse descendance. Toutes ces promesses non, qui sont en fait répétées tout au long de son histoire, pas seulement ici. Il ne va pas posséder les pays qu'on lui a promis. Ah, mais ça arrive presque l'arnaque. Mais il est béni. Et comme on le sait, les textes nous le disent aussi, dans deux seuls versets, 2 et 3, on retrouve 5 fois la racine bénir en hébreu, et c'est dernier. Parfois, les traductions ne peuvent pas voir ça à cause des traductions. Et ces répétitions du racine, on les sait en hébreu, c'est pas une faute de style, comme ça devrait être chez nous, mais c'est une marque qu'utilise l'auteur pour dire ça, c'est les termes. Abraham, c'est les bénis. On les sait, les aussi. Mais comment il est béni? Parce que toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Waouh! Personne n'exclu. À noter, j'aime trop l'unité dans l'économie des lieux, c'est pas la personne, c'est la famille. C'est déjà la toute petite première communauté. Parce que quand on dit que Dieu crée l'homme, la femme, la mère, en fait, il crée la famille. Un homme et une femme en relation marital pour la procréation. Abraham est très béni parce que sa bénédiction arrivera jusqu'au confin du monde, à tout le monde. Dès la descendance d'Abraham, on le sait parce qu'on connaît notre Bible, va naître le Messie, Jésus. C'est lui qui va porter ses cours pour les Juifs et pour les nations aussi, pour toutes les familles de la terre. C'est pour ça qu'il est très béni. Et où serions-nous aujourd'hui si Abraham n'avait pas obéi à Dieu? Au début de la Genèse, au moment de la chute, Genèse 3, les serpents dans les jardins avaient mis en route la machine à malédiction. Mais Dieu met en route avec Abraham la magie à bénédiction. Et Abraham, lui tout seul, ça c'est vrai, il reçoit la plus grande des bénédictions, au-delà de la descendance, au-delà de la terre, au-delà de la richesse, parce qu'il va être un homme assez riche. Et c'est quoi? Ce n'est pas les textes qui nous les disent, c'est un autre texte. Parce qu'il faut comprendre que la Bible s'explique par elle-même. Et c'est ce texte, ce verset que j'ai cité au début, en Ésaïe 41. Il est appelé l'ami de Dieu, par Dieu même. La seule personne dont on a vu. Il n'y a rien comme connaître notre Seigneur, comme avoir un rapport personnel, intime avec notre Dieu. Et ça, c'est vrai, c'est une bénédiction pour nous. Pourquoi nous sommes aussi bénis, nous, pour être une bénédiction pour les autres? Je disais que parfois on veut des bénédictions, on imagine ça d'une manière très personnelle, particulière. Mais Dieu veut que la bénédiction se répande. Et on trouve la même idée, par exemple, dans la Bible, quand on parle de la consolation. C'est écrit comme ça. On est consolé. Pourquoi? Non, mais c'était ça, pour qu'on puisse consoler les autres. On est pardon. On est pardonné pour qu'on aille pardonner aussi les autres. J'aime bien cette image de la pierre qui tombe dans l'eau, pas pour faire un ricochet, mais si on la fait tomber dans l'eau comme ça, elle va provoquer physiquement des cercles concentriques. Nous devrions, comme agents de bénédiction, comme Abraham, si vous voulez, comme ambassadeur de Christ, ça c'est plutôt l'Église du Nouveau Testament, être comme ça autour de nous. Des bénédictions qui provoquent des bénédictions chez les autres. Mais est-ce que nous nous voyons comme ça? En nous contemplant notre vie seulement dans les ici, dans mon amour, dans mon potager, dans mon jardin, et surtout maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on s'en fiche de ce qui va se passer après nous, quelques générations plus tard? Et j'arrive déjà à la troisième et dernière leçon du texte, et que j'ai intitulé « Deviens un étranger ». Et là, je pense que ça, c'est vraiment contre-intuitif. Parce que spontanément, naturellement, on voudrait toujours se sentir à la maison, avec notre famille, nos amis, notre langue, notre territoire, notre drapeau. C'est des choses bonnes en soi, il n'y a rien de mauvais là-dessus. Mais Abraham est, pour ainsi dire, l'homme le plus venu du monde, et quand même, dans toute sa vie, va garder un profil bas, et même lui, pas facile en tant qu'étranger. Il arrive à un territoire qui lui est promis et dont il ne va jamais être propriétaire de rien, un territoire coupé par les Cananéens. Du coup, aux yeux des hommes, ça semblerait que les Cananéens sont en meilleure circonstance de vie qu'Abraham, les grands bénis de Dieu. Parce que les Cananéens, ils sont les propriétaires. Les Cananéens habitent dans des maisons. Abraham arrive dans ces territoires occupés et il s'installe par exemple. Plutôt, il traverse les territoires. Il est toujours en mouvement. Déjà dans notre texte, ce n'est pas nécessaire d'y revenir, mais je vous fais noter que versets 4, 5, 6, 8, 9, Abraham part. Abraham se met en route. Abraham traverse. Abraham répare. Bref. Dans ces mêmes chapitres, ils vont descendre en Égypte à cause d'une famine. Et finalement, il va arriver à la terre promise, où il s'installera à peu près, mais sans aucune propriété, sauf les tombeaux qu'il va acheter pour enterrer sa femme, Sarah, la grande des Macréas. Il va habiter toujours sous tente, comme son fils Isaac et comme son petit-fils Jacob. Il sait que Dieu lui a promis la terre, mais face aux autres, il va dire qu'il n'est qu'un étranger quand il va acheter des tombeaux. Il aurait pu se vanter de ce que Dieu lui a promis, mais il garde un profil humble. Et qu'est-ce qu'il va faire en Canaan? On l'a vu aussi dans notre texte. Il achète une propriété, il se présente comme étranger, mais il va ériger deux autels à l'Éternel, versets 7 et 8. Parce qu'il est conscient que l'Éternel est Seigneur et roi de ses territoires. Même si les habitants actuels ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. Ils adorent d'autres dieux. Il érige un autel où d'autres dieux sont adorés. Il marque les territoires pour Dieu, pas pour lui. Comme s'il voulait dire, ici, Dieu règne, même si personne n'est au courant. Ici, Dieu se révèle, même si personne ne l'a vu. Ici, Dieu Dieu parle, même si personne ne l'a entendu. En moi, il va parler à moi. Les tantes, tout au long de sa vie et la vie de ses enfants, les définit comme un étranger et un pèlerin qui n'appartient pas à ce monde. Alors que l'autel les définit comme un citoyen du ciel qui s'occupe surtout des intérêts des dieux, de marquer cette terre à partir de la vie, et qui adore les vrais dieux vivants. En fait, un peu cette explication que je viens de donner, on la retrouve dans la lettre aux Hébreux. J'ai mis ici un passage. C'est cet angle passage dans la lettre aux Hébreux qui sont les héros de la foi, à ne pas confondre avec les zéros de la foi. Donc, les premières de tous, c'est Abraham. Je vais lire ces versets. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel des dieux, qui lui ont donné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans les pays qui lui avaient été promis, vivant sous les tentes des mères Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Nous aussi, pareil qu'Abraham, on devrait vivre dans cette terre qu'on aime, avec notre maison, nos enfants, nos amis, notre langue, notre barbeau, mais comme des étrangers, en attendant, pareil qu'Abraham, la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ça parle de la Jérusalem céleste qui va descendre, on le dit, dans l'Apocalypse, à la fin des temps. Et même si notre vie se déroule toujours dans les mêmes pays, dans la même ville, dans les mêmes quartiers, et faire encore dans la même maison, on est des étrangers, des passages dans cette vie, qui attendent d'arriver à son vrai pays. On est des résidents temporaires. Ce n'est pas un mot de l'administration française, c'est ce qu'il dit la lettre de Pierre par rapport à nous, la première lettre de Pierre. On est des résidents temporaires. Et on doit toujours se dire, d'une certaine manière, oui, mais c'est bien, mais c'est pas ici. Non, non, c'est super, mais c'est pas maintenant, c'est pas comme ça. On n'est pas arrivé à la vraie cité, au vrai pays où on appartient. On n'est pas rentré à la maison. Alors, j'arrive déjà, tout doucement, à une petite conclusion qui va être résumée de ce que j'ai dit. Nous avons médité ensemble autour d'un texte plein de nouveautés, des changements et des surprises. On a tiré trois leçons sur cet épisode de la vie d'Abraham, l'ami des dieux, l'homme des fois par excellence. Est-ce que nous allons laisser Dieu nous bouger et perdre comme Abraham nos pères et nos repères? Est-ce qu'on osera partir de nos pauvres, la vie d'origine particulière, partir de manière physique ou métaphorique? Je ne sais pas si vous avez repéré que Jésus, c'est quelqu'un qui, comme Abraham, bouge tout le temps dans son ministère, c'est un ministère itinérant. La vie des fois ne peut pas s'arrêter. Le père d'Abraham, on ne l'a pas vu parce que c'est dans les chapitres précédents, 11, il s'est arrêté dans la vie de Caïn et il est décédé. Là où on s'arrête, on meurt, spirituellement parlant. En fait, vous savez, il y a plein de choses qui sont physiques dans l'Ancien Testament qui ont une dimension spirituelle pour nous aujourd'hui. Parfois, notre appel, ce n'est pas de partir très loin géographiquement. En fait, c'est très bien à savoir et je ne suis pas en train de dire « allez-y ». Mais suivre Jésus veut toujours dire d'aller plus profondément dans notre être pour que Dieu puisse faire des grands œuvres. Peut-être que nous, on n'est pas appelé à être le roi David, Moïse, Salomon, Élie, peut-être oui. Hein. Mais en tout cas, on est tous appelés à faire comme Abraham, c'est-à-dire à se laisser transformer, à écouter Dieu, à l'obéir pour qu'il puisse nous changer une épreuve à la fois. On a vu que Dieu a créé son peuple à lui à travers l'appel d'Abraham, un homme qui, aux yeux des autres, on pourrait dire qu'il a raté un peu de sa vie. Il était âgé à ce moment-là, et son descendance, un migrant, sans terre, sans peuple, avec de l'argent. Il était riche, mais pour le reste. Mais Dieu a un regard différent sur la réalité. Ce n'est pas les yeux de la chair. Pour Dieu, le sans espoir, comme Abraham, devient symbole d'espoir pour les autres. Le vieux, à la fin, il est jeune. La stérile, sa femme, devient mère, attendez, des multitudes, d'une grande descendance. Il y aura des rois parmi ses descendants. C'est lui qui habite dans une tente, il est béni. Et c'est lui qui est dans les bâtiments, dans les palais des Cananéens, et maudit. Rien n'est comme il semble aux yeux de la chair. Et nous, comment on regarde autour de nous? Est-ce que nous sommes prêts à donner de l'importance à ce qui est vraiment important pour Dieu? Dieu le Père a dit à Abraham, au début de notre texte, « Va là où je te montrerai. » Jésus le dit, « Suis-moi. » Et pareil, hein, il ne dit pas où on va aller, alléluia. Mais peu importe où on est, où on va, on peut partout planter notre tente, comme Abraham. Partout, on va prier, on peut prier, n'importe où. Parce que toute cette terre est la terre de Dieu. Et même si les résidents, les habitants ne le savent pas, c'est pas grave, on le sait. Et on sait qu'on a un espoir qui va au-delà de notre vie. Notre vie s'inscrit dans l'éternité. Dès qu'on décide de suivre Jésus, faire de lui notre Sauveur, notre Seigneur, on va recevoir aussi des bénédictions pareilles qu'on va avoir, spirituelles. C'est pas Israël, on n'est pas censé aller là conquérir la terre, mais on a été à l'espirituel, on a parlé, les royaumes de Dieu. On devient citoyen du royaume de Dieu, résident temporaire sur cette terre, des étrangers, des passages. Et on reçoit aussi une famille. C'est pas grave si on est vieux, si on est stérile, si on est pauvre. On a la famille et spirituelle. L'Église, la famille des dieux. Deux grandes bénédictions. Et notre chemin de foi, j'espère, va venir aussi les autres, comme c'était le cas d'Abraham. Et peut-être on va rien voir dans cette vie. Mais on s'en fiche, on fait confiance à Dieu. Il a promis. Est-ce qu'on va essayer, nous aussi, avoir les diapotes, les combles des combles des bénédictions, celles qu'a eu Abraham? Et on va essayer de devenir l'ami des dieux. Si Abraham, qui était un homme, et là, dans les passages que j'ai lis, ça semble un peu waouh. Mais si on continue à lire, vous verrez qu'après, il essaie de manipuler sa femme. Pourquoi? C'est quelqu'un pour vous, pour moi, pour nous tous. Il est devenu l'ami des dieux. Si Abraham est l'ami des dieux, nous aussi, on peut devenir ses amis. Et en tout cas, Jésus, à la fin de sa vie, à la fin de l'évangile des Jean, pour ceux qui se souviennent, c'est le moment critique qu'il est en train de partager les repas de la Pâque avec ses disciples, c'est le jeudi soir. Il sait qu'il va être pris, il sait qu'il va être mort, il sait que ça va être la cata pour un moment. Il sait que Judas va le trahir et les autres, pareil, même s'ils ne font pas la démarche, ils vont disparaître, il va être seul à la croix. Et là, il dit, je vous appelle mes amis. Voilà. Jésus pense que nous sommes ses amis. Alors, est-ce que nous le sommes vraiment? On est prêt à s'investir à fond pour cette amitié? Alors, je vais finir par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit, qui nous encourage, qui nous met au défi. Je te demande Seigneur que, voilà, que ce qu'on a pu entendre aujourd'hui puisse nous aider à cheminer encore plus loin avec toi sur les chemins de la foi. Je demande ça au nom de Jésus. Amen.